Faites, mais on économise notre créativité pour le contenu. Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Midi 45, un excellent lundi à tout le monde. Pour tous ceux qui travaillent, il y en a qui ont pris congé aujourd'hui, bien entendu, parce que il y a des écoles qui sont fermées à certains endroits, d'autres ouvertes. Les CPE sont fermés, 400 CPE à la grandeur du Québec sont fermés aujourd'hui. Donc, on vous salue. Si vous êtes sur la route, n'oubliez pas, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci de nous informer s'il se passe quoi que ce soit. 418-971-1021, 418-971-1021. À la météo aujourd'hui, ça va être ça, ce que vous voyez à l'extérieur. Donc, de la poudrerie, des vents, je vois des vents à 50-60 km/h. 2 cm annoncés pour aujourd'hui, 2 cm annoncés pour ce soir. Demain, même chose, faible neige intermittente et poudrerie par endroit. En matinée, maximum de moins 12. En soirée, ce sera nuageux avec un minimum de moins 13 degrés. Mercredi, c'est nuageux, maximum de moins 5. Jeudi, le retour du soleil, maximum de moins 1 degré. Et vendredi, ce sera ensoleillé, maximum de moins 7 degrés. On a le plaisir de le retrouver à chaque semaine. C'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut Nicolas! Nicolas, est-ce que tu es là?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Tu faisais dodo, quoi?
Non, c'est Québec-Montréal avec la tempête.
Ben non, je m'étais mis sur mute puis je ne trouvais plus le bouton. Fait que, écoute, ça allait se faire bien de mon côté.
T'as-tu écouté la confrontation des quatre nations, la game impliquant les États-Unis contre le Canada au Centre Bell?
J'ai écouté une manifeste que de côté, là, j'ai plutôt manqué, là, j'étais encore un peu jet lag avec mon retour au pays, puis c'est arrivé en plus en pleine tempête de neige, là, fait que j'ai un peu manqué ça. Tout ce que je sais, c'est que les Canadiens, on a perdu 3-1, puis mettons que, c'est plate, mais ainsi soit-il. Ça a commencé mal le match, là, ne serait-ce qu'avec les trois batailles qui ont eu lieu en quelques temps, mais c'est pas mal tout ce que je me souviens d'avoir vu, là, sur la couverture du match.
C'était tout un match, mon ami. Je pensais que t'étais un gros fan de hockey, là.
Bon, pas plus que ça. Je veux dire, je suis ça une fois de temps en temps quand le Canadien fait série ou des affaires de même, mais sinon, j'avoue franchement que je suis plus des informations au jour le jour, puis c'est pas tant ma tasse de thé, mais c'est toujours le fun une fois de temps en temps.
Bon, t'es un gars plate. Je pensais que t'étais plus le fun que
ça. Ben oui.
Ouais.
Ben non.
Hey, aujourd'hui, on parle de hausse de salaire.
Nicolas. Yannick, franchement.
On parle de hausse de salaire pour nos élus et la gouverneure générale.
Oui, ben c'est ça. On commence l'année en force parce qu'on a vu pas mal d'événements aller de ces derniers temps avec pas mal de dépenses dans toutes les directions, mais il y en a une qui s'en vient. C'est l'augmentation des salaires des élus à la Chambre des communes parce que le 1er avril, il y a plusieurs augmentations qui ont lieu. On augmente entre autres le salaire minimum, on augmente la taxe sur le carbone, on augmente les taxes assises sur l'alcool, mais on augmente aussi les salaires des élus, qui est quand même assez particulier parce qu'ils n'ont pas vraiment siégé jusqu'à maintenant cette année. Faut rappeler que la Chambre des communes est prorogée depuis le 6 janvier dernier. Donc, ils vont rentrer au travail le 24 mars. Quoique, je peux leur donner qu'ils travaillent peut-être dans leur comté présentement, mais ils ne sont pas au Parlement. Et à peine une semaine après leur retour au Parlement, ils vont avoir une augmentation salariale assez intéressante. Merci.
Ouais.
Dans le cas des élus, en fait, leur salaire va augmenter en fait entre 7 900 $ et 15 800 selon le titre qu'ils ont.
Ouais, faut
donc,
dire qu'un
député.
Ouais, un député fédéral, ça gagne autour de un simple député fédéral. Je ne sais pas, moi, je prends exemple le député fédéral de Beauce, là. Ça gagne 170 000 tomates.
Backbencher, mettons.
Ben, présentement, un backbencher à la Chambre des communes, c'était proche, c'est plutôt 203 100 $ que gagne un député à la Chambre des communes.
Avec les bonus,
Oui, ben non, ça c'est le salaire de base. Ça, c'est le backbencher qui fait ce salaire-là. Bien sûr, après ça, si vous occupez d'autres positions dans le Parlement, de ce que vous êtes présent sur différents comités, ben oui, le salaire augmente. Bien sûr, si vous êtes ministre, c'est un plus gros salaire et le premier ministre a quand même le plus élevé des salaires des parlementaires. Donc, il faut aussi rappeler que les députés à la Chambre des communes sont les élus, les deuxièmes élus les mieux rémunérés sur Terre. En fait, il y a juste les élus au Congrès américain qui font un salaire un peu plus élevé. Donc, c'est quand même pas rien. Puis là, donc, on va passer de 203 000, le salaire actuel, à 211 000 à partir du 1er avril prochain. Puis si on va voir, par exemple, le premier ministre Justin Trudeau, ou du moins son successeur, c'est plutôt lui qui va remporter l'augmentation salariale, mais on passe de 406 000 $ à 422 000. Donc, c'est quand même des augmentations drastiques qui ont lieu à un moment assez particulier. On rappelle, d'un, le Parlement est fermé, mais de deux, en plus, pas comme si les finances publiques donnaient place ou donnaient beaucoup de marge de manœuvre présentement des augmentations de salaire, surtout en tout cas encore moins à nos élus. Et c'est un salaire qu'ils vont en profiter le 1er avril et ça de manière automatique.
Justin Trudeau est à 300 000 à peu près?
Il est à 406 000 présentement.
Ah ben ouais, ça va bien.
Puis c'est, c'est ça, son salaire il augmente de 15 000 $, il passe à 422 000. Donc c'est quand même, on s'entend, c'est un très gros salaire. Maintenant, la question qu'on se pose souvent quand on est un contribuable, c'est est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ces augmentations de salaire-là on devrait avoir lieu? Je pense que la question est vite répondue. Mais malheureusement, malgré le fait que nous, à la Fédération, on a fait quand même plusieurs sondages au cours des dernières années là, pour savoir justement c'est quoi l'opinion de la population, à peu près 80% des gens sont toujours augmentés à ces augmentations de salaire. Mais malheureusement, elles ont lieu de manière automatique à toutes les 1er avril, sans qu'il y ait un seul vote qui ait lieu, d'ailleurs, pour que ça soit passé.
Nick, on a des textos d'auditeurs là, qui se demandent où est-ce que tu prends ça? C'est-tu public? As-tu un moyen de suivre ces salaires-là, de mieux les comprendre?
Oui, ben nous, c'est directement des informations en fait qui sont rendues publiques. On les a même mis directement sur notre site web là, pour ceux qui veulent avoir des références directes. Puis c'est dans le fond là, dans notre communiqué de presse qu'on a partagé. Parce que là, je reviens un peu sur le tas parce qu'on a publié ça la semaine dernière, donc je publie ça actuellement. Mais c'est directement sur le site du gouvernement du Canada qu'on peut voir les annonces d'augmentation de salaire ainsi que les salaires comme je vous ai présenté. Donc c'est sur le site du Parlement, là, rien de moins. Donc c'est la section, je peux vous le dire en français pour faire ça simple. Mais c'est la section qui porte sur les indemnités, salaires et allocations. Donc, c'est de l'information publique que nous, on relaye parce que je pense que les gens méritent de le savoir parce que c'est pas de l'information qu'ils vont annoncer en grande pompe non plus le 1er avril. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps d'informer les contribuables sur ces détails-là.
Bien, surtout connaissant le contexte actuel où l'économie du Canada, ça roule pas à plein régime. On se doit les fesses. On n'est pas capable de rentrer dans le budget, de voir que ces gens-là ont systématiquement des augmentations de salaire de ce genre-là alors qu'ils gagnent déjà très, très bien leur vie. Ça peut être choquant pour la personne qui a deux jobs pour arriver à la maison. Là.
Ben oui, puis on l'a martelé même durant la pandémie. On demandait aux élus de faire preuve d'un minimum de jugement puis de pas encaisser des augmentations de salaire. Puis pourtant, durant la pandémie, quand il y avait, puis on le rappelle, parce que depuis 2020, les salaires de tous ces élus-là, du sénateur au simple backbencher, ont quand même drastiquement augmenté là, de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et pourtant, pendant cette période-là, on en a vu de toutes les couleurs des gens qui perdaient leur job et qui voyaient leur business être fermé d'une part. Puis après ça, il y a eu l'inflation où est-ce que les gens avaient de la difficulté à suivre l'augmentation des prix. Puis ben là, on est sur le bord d'une guerre commerciale où est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une récession par la suite. Puis on voit nos élus qui, malgré tout, sans dire un seul mot, ben continuent à empocher des augmentations salariales qui sont faramineuses et qui sont payées par les contribuables. Puis je pense que ça ajoute un peu l'insulte à l'injure de constater que par-dessus le marché, on a un Parlement qui est présentement immobilisé. Ça fait aucun sens qu'une semaine après leur retour, ils décident de profiter d'une augmentation de salaire sur le dos des contribuables.
Autre chose, on parle du congé de TPS, là, ça a pris fin ce samedi. Est-ce que vous en avez profité? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça?
Zéro pin-bar, moi, toi.
Moi non plus.
On dirait que, pas rendu compte.
C'est une belle nouvelle qui est annoncée pour certains au mois de... c'est au mois de décembre, là, de mémoire. Puis après ça, on est comme passé à autre chose rapidement.
Ben effectivement, puis c'est une petite augmentation, un petit congé plutôt, là, c'est un congé qui était effectif du 15 décembre au 15 février, et ça a pris fin donc en fin de semaine. Donc officiellement, il y a quelques prix sur, parce que c'est pas tous les produits, là, mais quelques produits qui avaient une exemption de 5%, puis ne serait-ce que pendant 2 mois de temps, et là, ça a pris fin. Donc vous allez sûrement peut-être remarquer, ne serait-ce que pour certains produits, une augmentation d'environ quelques pourcentages, entre 4 et 5% selon l'application de la taxe, mais aussi final, le constat est pas mal général. On n'a pas vu ça passer tant que ça non plus. Faut dire qu'il y a certains commerces qui ont décidé de pas l'appliquer parce qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était beaucoup trop problématique et c'était tellement complexe à faire de faire une exemption, non pas sur tous les produits, mais sur quelques produits ciblés. Là, il y avait entre autres les collations, les vêtements pour enfants.
Mais c'était une suggestion où des gens pourraient se revirer envers les commerces qui n'ont pas participé à tout ça puis dire vous allez me devoir X ou encore je vous poursuis ou je sais pas quoi.
Je pense pas que les gens vont faire ça parce qu'il y a dans certains cas, puis on l'a remarqué entre autres en Colombie-Britannique, il y a eu plusieurs cas où est-ce que les commerces ont eux-mêmes fait l'analyse de l'impact que ça avait sur le va-et-vient des clients dans leur magasin, puis ils ont réalisé que les gens se rendaient même pas compte qu'il y avait vraiment un congé de taxes. En fait, c'est peut-être ça le plus gros problème, c'est qu'à la fin de la journée, il y a quand même une inflation naturelle des prix, puis en plus, l'exemption c'était quand même sur certains produits, donc les gens peut-être qui n'ont pas simplement choisi de faire l'achat de ces ces produits-là qui étaient ciblés. Donc, ils n'ont pas profité d'une quelconque manière de ce petit congé de taxe. Mais à la fin de la journée, ça a quand même coûté de l'argent. Ne serait-ce que d'un point de vue de revenu pour le gouvernement, là, ça a coûté environ, pour l'instant, on parle d'environ 2 milliards de dollars d'impact au niveau des finances publiques. Mais est-ce que les gens en ont profité? La question, malheureusement, est vite répondue. On voit que c'était beaucoup trop minime pour que ça ait vraiment un impact, ne serait-ce qu'à court terme. Et en plus, ça a donné tout un mal de tête à bien des commerçants, parce que eux, c'est quand même pas de leur faute, c'est du jour au lendemain. Ne serait-ce qu'en quelques jours à peine, ils ont dû se revirer de bord, puis commencer à jouer avec les prix, puis à essayer de s'ajuster à cette exemption-là, ce qui leur a coûté quand même un certain montant dans quelques cas. Donc, toute cette problématique-là a un peu effacé les bienfaits du congé de taxe, puis c'est pour ça que, tu sais, avant de faire des congés temporaires, le gouvernement devrait trouver le moyen, justement, de faire le ménage dans sa cour, puis de donner des exemptions ou des gels de taxes de manière permanente et un peu plus structurante qu'un petit congé sur des produits ciblés.
Ben, ils vont peut-être y penser dans les prochains jours. Des prochains jours, on vient de leur donner une augmentation de salaire, là.
Ben, c'est ça, il y a une augmentation de salaire, puis en plus, on tombe en élection à la fin de l'année, pas possiblement. Donc, il y en a quand même certains qui ont intérêt à se faire élire, ne serait-ce que, bon, on va le dire franchement, pour la pension. Mais on verra en temps et lieu comment ça va se passer. Mais ce temps-là, ça serait le fun qu'ils songent à une approche un peu plus productive que de parler de tarifs à tous les jours, puis qu'essayer de parler de baisse de taxes, de baisse d'impôts, puis de meilleure manière pour encourager l'économie, les commerçants puis les contribuables.
Ça te surprend-tu de voir Chrystia Freeland puis Mark Carney s'éloigner de la politique économique de Justin Trudeau puis se rapprocher de ce que Pierre Poilievre voulait mettre en place? Ça se demandait des fois, si à un moment donné, dans 2-3 mois, mettons, on va se poser des questions à savoir, bon, c'est quoi le plan économique de Poilievre? C'est quoi le plan économique de Carney ou de Chrystia Freeland? Ça va-tu être la même affaire ou ils vont réussir à se distancer à un moment donné? Parce que là, Carney s'en vient de plus en plus conservateur, là.
Ben oui, c'est assez surprenant de le voir sortir, surtout que là, il apparemment, dans les dernières heures, on apprenait qu'il s'était déjà fait offrir le poste de ministre des Finances par Stephen Harper. Ouais. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, cette information-là, du moins parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs commentateurs politiques dans le monde anglais au Canada qui semblent dire que ça semble assez farfelu comme hypothèse. Mais oui, ça reste quand même un banquier, donc il y a quand même une logique comptable et fiscale qui se rapproche du conservatisme fiscal comme tel. Mais est-ce que Carney va devenir soudainement l'anti Trudeau, une fois qu'il a décidé de faire l'inverse de ses politiques, je pense pas. La preuve étant qu'il a toujours pas refusé de garder, en fait, la fameuse taxe carbone. Pour l'instant, il y a la discussion à savoir s'il veut l'éliminer pour les consommateurs dans le reste du Canada, parce qu'on sait qu'au Québec, nous, elle est refilée de manière différente. Mais il veut justement appliquer un modèle similaire à celui du Québec, ne serait-ce qu'au niveau d'un marché de carbone canadien et non juste, ne serait-ce qu'un système fédéral comme il l'applique. Mais tout ça pour dire que, à la fin de la journée, les politiques que Trudeau a mis en place ont été largement influencé d'une part par Carney et encouragé ou soutenu également par Freeland. Donc, je serais très surpris qu'on voit un revirement de baisse aussi rapide, ne serait-ce qu'au courant des prochains mois. Mais c'est quand même surprenant de les voir avec une patate chaude entre les mains puis se demander comment ils vont devoir dealer avec l'héritage de Justin Trudeau. Est-ce qu'ils le gardent à tout prix ou est-ce qu'ils vont faire des compromis? Mais à la fin, s'ils font des compromis, ça va profiter à l'autre camp qui a un peu comme une certaine victoire morale. C'est-à-dire que si Carney se met à dire que la taxe carbone n'est pas une bonne politique, ben, ça donne raison à Poilievre après toutes ces années. Donc, il doit faire attention à ça. J'ai hâte de voir la suite des choses. Je ne sais pas quand est-ce que le vote va avoir lieu, mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un nouveau premier ministre qui ne sait pas exactement dans quelle direction on va aller d'ici les prochaines élections.
On termine avec ça, Pascal. Affaire mondiale Canada. Qu'est-ce qui se passe? Là? Il y a eu le scandale UniAid. On est rendu où avec Affaire mondiale?
Ben, c'est parce que, justement, on a eu quand même beaucoup de discussions des derniers temps à propos de ce qui est fait aux États-Unis par le fameux DOGE, là, ou le département, là, The Department of Government Efficiency, qui permettrait au gouvernement américain présentement, là, de faire un ménage de compte en compte. Puis souvent, on se demande, nous, comment est-ce qu'on pourrait arriver à, justement, dégager des économies au Canada pour être en mesure d'offrir des baisses d'impôts puis de pouvoir alléger le fardeau fiscal et réglementaire des Canadiens. Ben, il faut, justement, s'attaquer aux dépenses qui devraient pas avoir lieu. Puis s'il y a bien un des bras du gouvernement présentement, si on oublie bien sûr Post Canada puis Via Rail qui ont tous des pertes à répétition, mais on a aussi des bras du gouvernement comme Global Affairs ou Affaires mondiales Canada qui dépensent à répétition. Puis on est tombé récemment sur des documents assez intenses là, qui démontrent que, entre autres, là, on s'en va garrocher pas loin d'un demi-milliard de dollars dans des projets de développement qu'on dit équitables, climatiques et dans le respect des genres, qu'on fait ça en Asie et en Afrique, donc pas en Afrique, mais en Amérique du Sud. COVID. Donc, je donne un affaire comme ça. On a trouvé que, entre autres, Global Offers, on allait mettre 350 millions de dollars de l'argent des contribuables dans un projet de développement pour les pas loin des 18 prochaines années en Asie. On n'a pas plus d'informations là-dessus. C'est juste que l'argent des contribuables se ramasse là-bas. Même chose pour la Banque de développement interaméricaine. On s'en va garocher 223 millions.